Nathaniel Hawthorne, Le Livre des Merveilles, La tête de la Gorgone, Le porche de Tanglewood. Par une belle matinée d'automne, on pouvait voir, réunis sous le porche d'une maison de campagne appelée Tanglewood, un certain nombre d'enfants, présidés par un jeune garçon dont la taille dépassait de beaucoup celle de ses camarades. Cette bande joyeueuse avait projeté une cueillette parmi les noyers des environs et attendait avec impatience que le brouillard se fût enlevé sur les collines et que le soleil eût répandu sa chaleur dans les champs, dans les prairies et à travers les bois dont l'été indien colorait les feuilles de mille nuances. La matinée promettait l'un des plus beaux jours qui aient jamais égayé l'aspect de la nature, si plein de charme et de délices. Toutefois, le brouillard remplissait encore la vallée dans toute son étendue jusqu'à une petite éminence où était située l'habitation. À moins de 100 yards de la maison, une vapeur blanchâtre voilait tous les objets, à l'exception de quelques cimes vermeilles ou jaunies que venaient dorer les premiers rayons du jour et qui, çà et là, perçaient l'épaisseur du brouillard. À une distance de 4 ou 5 milles, vers le sud, se dressait le pic du Monument Mountain, qui semblait flotter sur un nuage. Quelques milles plus loin, au dernier plan, surgissait à une plus grande élévation la cime du Taconic, fondue dans une teinte azurée et presque aussi vaporeuse que l'atmosphère humide dont elle était enveloppée. Une couronne de légers nuages entourait le sommet des collines qui bordaient la vallée, à demi submergée dans la brume, et sous le voile dont elle était couverte, la terre elle-même, n'offrant plus à l'œil que des lignes indécises, l'ensemble du paysage produisait l'effet d'une vision. Les enfants dont nous venons de parler, aussi pleins de vie qu'ils pouvaient en contenir, s'élancèrent du porche de Tanglewood et, s'enfuyant par l'allée sablonneuse, se répandirent en un clin d'œil sur l'herbe humide de la prairie. Nous ne saurions dire exactement combien il y avait de ces petits coureurs. Pas moins de 9 ou 10, et pas plus d'une douzaine. Petites filles et petits garçons, tous différents de taille et d'âge. C'étaient des frères, des sœurs, des cousins, et quelques jeunes amis invités par Mr. et Mrs. Pringle à passer une partie de l'automne avec leur famille à Tanglewood. Je ne voudrais pas vous dire leur nom. Je craindrais même de leur en donner, qui étaient portés par d'autres enfants. Car j'ai connu des auteurs qui se sont attirés de véritables désagréments pour avoir nommé les héros de leurs histoires comme certaines personnes existantes. Pour cette raison, j'appellerai mes petits compagnons Primrose, Pervenche, Jolibois, Dent de Lion, Bleuet, Marguerite, Églantine, Primevère, Fleur des Pois, Pâquerette, Plantain et Bouton d'Or. Noms qui, à tout prendre, conviendraient mieux à un groupe de fées qu'à des enfants réels. Il ne faut pas croire que ceux qui composaient cette joyeuse petite troupe aient reçu de leurs parents, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs grands-pères ou grands-mères la permission d'aller courir ainsi à travers champs et bois sans être sous la tutelle d'une personne particulièrement recommandable par son âge et sa gravité. Ce respectable mentor s'appelait Eustache Bright. Je vous fais connaître son vrai nom parce qu'il tient à grand honneur d'avoir raconté les histoires qui sont imprimées dans cet ouvrage. Eustache était un élève de Williams College et avait à cette époque environ 18 ans, âge vénérable qui le faisait passer à ses propres yeux pour un être digne de tout le respect que Dent de Lion, Églantine, Fleur des Pois, Bouton d'Or et les autres devaient à leur grand-père. Une légère fatigue de la vue, maladie que de nos jours bien des écoliers croient nécessaire d'avoir afin de prouver leur application à l'étude, lui faisait prolonger ses vacances d'une quinzaine. Mais pour ma part, J'ai rarement rencontré une paire d'yeux qui puisse voir d'aussi loin et plus parfaitement que les yeux de Sage Bright. Ce savant écolier, mince et pâle, comme le sont en général les étudiants du nord de l'Amérique, était aussi léger et aussi vif que s'il eût des ailes à ses chaussures. Aimant fort par parenthèse à passer les ruisseaux à gué et à traverser les prairies humides, il avait mis pour cette expédition de grandes bottes de cuir de vache. Il portait une blouse de toile, une casquette de drap et une paire de lunettes vertes, précaution probablement moins essentielle à la conservation de sa vue qu'à la dignité de son rôle. En tout cas, il aurait aussi bien fait de ne pas se donner ce dernier embarras, car à peine venait-il de s'asseoir sur les marches du porche, qu'Églantine, en vrai lutin, se glissa derrière lui, les lui enleva du nez pour les mettre sur le sien. Et comme l'étudiant oublia de les lui reprendre, elles tombèrent dans l'herbe où elles restèrent jusqu'au printemps suivant. Il faut vous dire que Stage Bright avait acquis parmi les enfants une grande réputation comme conteur de récits merveilleux. Bien qu'il se prétendît fatigué toutes les fois que ses auditeurs, qui ne se lassaient pas de l'entendre, lui en demandaient encore un autre, je doute réellement que rien pût lui faire autant de plaisir que de les leur débiter. Vous eussiez pu vous en apercevoir à un certain jeu de paupières significatif, lorsque Marguerite, Jolibois, Primevère, Bouton d'Or et la plupart de ses petits compagnons le supplièrent de raconter quelqu'une de ses histoires, en attendant que le brouillard fût dissipé. « Oui, cousin Eustache, dit Primrose, pétillant enfant de 12 ans, avec des yeux pleins de malice et un petit nez relevé. Le matin est le meilleur moment de la journée pour raconter vos histoires, qui sont toujours si longues. Nous serions moins exposés à blesser votre susceptibilité en nous endormant aux passages les plus intéressants, ce que la petite Primevère et moi nous avons fait hier au soir. « Méchante, cria Primevère, petite fille âgée de 6 ans, je ne me suis pas endormie. J'ai seulement fermé les yeux, comme pour voir le tableau dont nous parlait cousin Eustache. Ces histoires sont au contraire bien jolies le soir, parce qu'on en rêve quand on dort, et bien belles le matin, parce qu'on en rêve tout éveillé. Aussi, j'espère qu'il va nous en raconter une tout de suite. « Merci, ma petite Primevère, reprit Eustache. Je vais certainement vous conter les plus charmantes histoires que je pourrais imaginer, quand ce ne serait que pour avoir pris ma défense contre cette maligne de Primrose. Mais, chers enfants, je vous ai déjà dit tant de contes de fées que j'ai bien peur de vous endormir tout à fait si je me répète encore. « Non, non, non !» crièrent à la fois Bleuet, Pervenche, Pâquerette, Plantain et les autres. « Nous aimons mieux les histoires que nous avons déjà entendues. » Et c'est une vérité qu'un récit paraît d'autant plus intéresser les enfants qu'ils le connaissent davantage et que leur esprit en est plus profondément pénétré. Mais Eustache Bright, dans l'exubérance de ses ressources, dédaignait de tirer avantage d'une permission dont se serait empressé de profiter un narrateur plus âgé. Il serait bien fâcheux, dit-il, qu'un homme de mon érudition, pour ne pas parler de l'originalité de son imaginative, ne fut pas capable d'offrir chaque jour une histoire différente à des enfants comme vous. Écoutez bien, je vais vous dire un de ces contes de nourrice, inventés pour amuser la terre, notre vieille, vieille grand-mère, quand elle était petite fille en jupon et en sarrau. Il y en a une centaine, et je n'en reviens pas de ce qu'ils n'ont point été recueillis dans des livres d'images destinés aux petites filles et aux petits garçons. Au lieu de cela, les barbes grises se creusent la tête à les étudier dans de gros bouquins grecs couverts de poussière et cherchent à savoir comment et pourquoi ils ont été inventés. « Assez, assez, cousin Eustache !» crièrent d'une seule voix tous les enfants. « Ne parlez plus de vos histoires, mais racontez-en une !»« Asseyez-vous donc autour de moi, dit Eustache, et restez tranquille comme des souris. » À la moindre interruption de Primrose ou des autres, j'arrête mon histoire d'un coup de dent et j'avale le reste. Mais d'abord, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui sache ce que c'est qu'une gorgone? Moi, répondit Primrose. Eh bien, gardez-le pour vous, répliqua Eustache, qui aurait préféré qu'elle n'en sût rien. Je vais vous conter une histoire sur la tête d'une gorgone. Et il commença, comme vous pouvez vous en convaincre, à la page suivante. Tout en se servant des matériaux que lui fournissait son érudition et dont il était redevable au professeur Anton, il ne manquait pas d'avoir le plus profond dédain pour les autorités classiques en général et de s'en écarter aussi souvent qu'il y était poussé par l'audace de son imagination vagabonde. La tête de la gorgone. Persée devait le jour à Danaï, qui elle-même était la fille d'un roi. À peine âgée de quelques années, de méchantes gens le mirent avec sa maman dans une boîte et les livrèrent ainsi aux flots de la mer. Le vent souffla vivement, poussa la boîte loin du rivage et les vagues capricieuses l'emportèrent en la secouant avec rudesse. Danaé serrait son enfant sur son sein et tremblait à chaque instant de voir engloutir sa frêle embarcation qui continua cependant à voguer sans couler à fond ni même se renverser. Vers la fin du jour, elle flotta si près d'une île qu'elle se trouva prise dans les filets d'un pêcheur et fut déposée sur le rivage. L'île s'appelait Sérifus et obéissait aux lois de Polydecte, qui par hasard était frère du pêcheur. Ce dernier, je suis heureux d'avoir à le dire, était à la fois rempli d'honneur et de générosité. Il montra la plus grande bienveillance à Danaé et à son petit garçon, et leur continua ses bontés jusqu'à ce que Persée fût devenu un bel adolescent, plein de force et de courage, et très habile dans le maniement des armes. Malheureusement, le roi Polydecte n'était ni bon ni bienveillant comme son frère le pêcheur, tout au contraire. Aussi résolut-il de charger Persée d'une entreprise périlleuse où il perdrait probablement la vie, ce qui lui permettrait d'exercer contre Danaé quelque cruelle persécution. Il se mit donc à chercher quelle était la chose la plus dangereuse qu'un jeune homme pût entreprendre. À force de méditation, ayant découvert une aventure dont l'issue ne pouvait manquer d'être aussi fatale qu'il le souhaitait, il envoya chercher le jeune Persée. Celui-ci arriva au palais et parut devant le roi, qui était assis sur son trône. Persée, dit le roi Polydecte en lui souriant malicieusement, voilà que tu es devenu un grand et beau garçon. Ta bonne mère et toi, vous avez reçu de nombreuses marques de ma bienveillance personnelle, ainsi que de la bonté de mon digne frère, le pêcheur. Je suppose que tu ne serais pas fâché de m'en témoigner ta reconnaissance. Votre Majesté n'a qu'à commander, répondit Persée. Je suis prêt à risquer ma vie pour lui en donner la preuve. Eh bien alors, poursuivit le roi avec un sourire de plus en plus malicieux, j'ai une petite expédition à te proposer. Et comme tu es un jeune homme courageux et entreprenant, ce sera pour toi une excellente occasion de te distinguer. Tu sauras que je pense à me marier à la belle princesse Hippodamie. Il est d'usage dans une telle circonstance de faire à sa fiancée un présent d'une rareté singulière et d'une élégance recherchée. J'ai été d'abord, je l'avoue sans honte, un peu embarrassée pour deviner ce qui pouvait plaire à une princesse d'un goût aussi délicat. Mais je me flatte d'avoir découvert ce matin même l'objet qui m'est nécessaire. Et puis-je avoir l'honneur d'aider Votre Majesté à se procurer cet objet? S'écria Persée avec empressement. Tu le peux si tu es aussi brave que je le crois, répliqua le roi Polydecte en prenant un des airs les plus gracieux. Le présent que je tiens à offrir à la belle Hippodamie C'est la tête de la gorgone Méduse avec sa chevelure de serpent. Je compte sur toi, mon cher Persée, pour me la procurer. Et comme je brûle de terminer avec la princesse, plus tôt tu iras à la recherche de la gorgone et plus je serai satisfait. Je partirai dès demain matin, répondit le jeune homme. Je t'en prie, n'y manque pas, mon brave ami. Surtout, fais attention en tranchant la tête à exécuter la chose avec dextérité, afin de ne rien changer à sa physionomie. Tu la porteras ici dans le meilleur état possible, et je ne doute pas que cela ne plaise à ma charmante princesse, quelque difficile qu'elle puisse être. Persée n'eut pas plus tôt quitté le palais que Polydecte se mit à rire aux éclats, ravi, en méchant roi qu'il était, d'avoir tendu si facilement un bon piège à l'imprudent jeune homme. La nouvelle se répandit bien vite au dehors que Persée avait entrepris de trancher la tête de Méduse aux cheveux de serpent. Tout le monde fut dans la joie, car la plupart des habitants de l'île étaient aussi méchants que le monarque lui-même, et se faisait une fête de voir arriver quelque horrible malheur au fils de Danaé. Peut-être n'y avait-il d'honnête homme dans tout le pays que le bon pêcheur, frère du méchant Polydecte. Lorsque Persée se mit en route, le peuple le montrait au doigt en faisant des grimaces. Chacun clignait de l'œil d'une manière significative et le tournait en ridicule. Ah ah! Criait-on. Les serpents de Méduse vont joliment le mordre. Il faut vous dire qu'il y avait à cette époque trois gorgones. C'étaient les monstres les plus étranges et les plus terribles qu'on eût vus depuis que le monde existait. Et probablement, on n'en verra jamais d'aussi affreux dans l'avenir. Je ne sais réellement pas quelle place donner à ces affreuses créatures, et si elles appartenaient à la terre ou à l'enfer. C'étaient trois sœurs qui semblaient avoir quelque ressemblance avec les femmes. Pourtant, elles appartenaient bien positivement à la plus horrible espèce de dragon et à la plus dangereuse. Il serait difficile d'imaginer quel aspect hideux présentaient ces trois monstres. Au lieu de cheveux, croirez-vous que les gorgones avaient sur la tête une centaine de reptiles, se tordant, se repliant, s'entrelaçant et allongeant des langues venimeuses armées d'un double dard. Leurs dents étaient des défenses d'une longueur effrayante. Leurs mains étaient des reins. Leur corps était couvert d'écailles au moins aussi dures et aussi impénétrables que le fer. En outre, elles avaient des ailes. Et de splendides, je vous en réponds, car chaque plume était de l'or le plus pur. Aussi, quand elles prenaient leur vol au soleil, on en restait ébloui. Mais ceux qui, par hasard, devenaient témoins de leur éclatante apparition dans les airs ne s'arrêtaient pas à les contempler. Ils s'enfuyaient à toutes jambes, de peur d'être piqués par les serpents, d'avoir la tête broyée par les horribles mâchoires des gorgones ou d'être mis en pièces par leurs griffes d'airain. À coup sûr, c'était là de grands dangers, mais non pas les plus difficiles à éviter. Ce qu'il y avait de plus redoutable dans l'apparition des gorgones, c'est l'effet que produisait leur aspect horrible sur les mortels. Car il suffisait à un homme de regarder un de ces monstres pour être immédiatement changé en statue de pierre. C'était donc une aventure bien périlleuse qu'avait imaginée le roi Polydecte pour perdre l'innocent jeune homme. Persée lui-même, quand il y eut réfléchi, pensa qu'il avait fort peu de chances de réussir et que probablement il serait transformé en bloc de pierre lorsqu'il approcherait de Méduse, et que par conséquent, il ne pourrait pas rapporter la tête de la gorgone. Sans parler des autres difficultés, il en existait une qui aurait embarrassé un jeune homme plus expérimenté que lui. Non seulement Il lui fallait combattre et tuer ce monstre aux ailes d'or, aux écailles de fer, aux dents énormes, aux griffes de bronze et à la chevelure de serpent. Mais il fallait y parvenir en ayant les yeux fermés, car en moins d'un clin d'œil, son bras, levé pour frapper, se serait pétrifié comme tout le reste de son corps, et aurait conservé cette position pendant des siècles, jusqu'à ce que le temps l'eût réduit en poussière. C'était une bien sombre perspective pour un jeune homme ambitieux d'accomplir un grand nombre d'exploits et qui se croyait destiné à jouir de tant de bonheur dans ce monde si brillant et si beau. Ces réflexions jetaient une telle tristesse dans le cœur de Persée qu'il ne put se décider à dire à sa mère ce qu'il allait entreprendre. Après s'être armé de son bouclier et de son glaive, il traversa le détroit qui séparait l'île de la terre ferme. Arrivé là, il s'assit dans un lieu solitaire et ne parvint pas à retenir ses larmes. Mais tandis qu'il s'abandonnait à son chagrin, il entendit une voix derrière lui qui disait « Persée, pourquoi es-tu si triste ?» Il leva la tête, fort surpris de ce qu'il venait d'entendre car il se croyait seul, et vit un étranger à l'œil vif, intelligent et remarquablement rusé, qui avait un manteau flottant sur les épaules, un chapeau bizarre sur la tête, à la main un petit bâton contourné d'une singulière façon et un glaive très court et fort recourbé au côté. Il paraissait excessivement actif et léger dans sa démarche, comme une personne habituée aux exercices gymnastiques et habile à sauter ou à courir. Il avait en outre un air si gai, si fin et si complaisant, bien qu'un peu malicieux, que Persée n'éprouva pas la moindre gêne en le regardant. Seulement, comme il était vraiment intrépide de sa nature, il se sentit confus d'avoir été surpris versant des larmes, comme un timide écolier, quand après tout, il pouvait bien ne pas y avoir à se désespérer. Il essuya donc ses yeux et répondit à l'inconnu de l'air le plus dégagé qu'il lui fut possible de prendre. Je ne suis pas triste, mais je rêve à une aventure que je veux tenter. Dis-moi ce que c'est, reprit l'étranger, et lorsque tu m'auras mis au courant de ce que tu veux faire, je te serai peut-être de quelque utilité. J'ai tiré d'embarras beaucoup de jeunes gens dans des circonstances que l'on avait de prime abord jugées très difficiles. Tu n'es pas sans avoir entendu parler de moi. Je suis connu sous plus d'un nom. Mais celui de Vif-Argent me convient aussi bien que tout autre. Dis-moi quel est ton embarras, nous en causerons, et nous verrons ensuite ce que nous avons à faire. Les paroles et les manières de l'étranger ranimèrent aussitôt l'espérance du jeune homme. Il résolut de confier à Vif-Argent toutes ses perplexités. Elles ne s'en augmenteraient pas. Et il se pouvait que son nouvel ami lui donnât quelques conseils dont il eût à se féliciter plus tard. Il lui conta donc en peu de mots comment le roi Polydecte avait besoin de la tête de Méduse pour l'offrir en cadeau de noces à la princesse Hippodamie, comment il s'était engagé à la lui procurer, mais qu'il avait peur d'être changé en pierre avant d'y parvenir. Et ce serait un grand dommage, répondit Vif-Argent avec un sourire plein de malice. Tu ferais, il est vrai, une belle statue de marbre, et tu resterais ainsi bien longtemps avant de tomber en poussière. Mais on aime encore mieux être un jeune homme pendant quelques années qu'un bloc de pierre pendant des siècles. Mille fois, s'écria Persée, les yeux encore humides. Et puis, que deviendrait ma bonne mère si son fils bien-aimé subissait une telle métamorphose? Eh bien, espérons que l'entreprise n'aura pas de résultat aussi fâcheux, répliqua l'étranger d'un ton encourageant. Si quelqu'un a le pouvoir de t'aider dans cette conjoncture, c'est moi. Ma sœur joindra ses bons services aux miens, et tu pourras triompher, quelque peu nombreuses que te paraissent aujourd'hui les chances du succès. Votre sœur, répéta Persée. Ma sœur, répliqua Vif-Argent, c'est une personne pleine de sagesse. Quant à moi, je ne suis jamais à court d'expédients. Si tu as du courage et de la prudence, et que tu veuilles suivre ponctuellement nos conseils, tu n'as pas à craindre un seul instant d'être pétrifié par la gorgone. Commence d'abord par rendre ton bouclier assez brillant et assez poli pour que tu puisses t'y voir aussi distinctement que dans un miroir. Ce début sembla passablement étrange au fils de Danaï, car il croyait beaucoup plus important d'avoir un bouclier assez fort pour le protéger contre les griffes d'airain de la gorgone que de pouvoir s'y mirer. Néanmoins, persuadé que Vif-Argent en savait plus long que lui, il se mit immédiatement à l'œuvre et frotta son bouclier avec tant de cœur et d'activité qu'avant peu, il devint aussi brillant que la pleine lune à l'époque de la moisson. Vif-Argent regarda ce travail avec un sourire et fit un signe d'approbation. Ensuite, détachant son petit glaive recourbé, il enseignait Persée qui se débarrassa du sien. Aucune autre arme que la mienne ne peut te convenir pour le but que tu te proposes, lui dit-il. La lame en est d'une trempe supérieure, et tu pourras couper le fer et le bronze aussi facilement que le plus tendre rameau. Maintenant, nous allons partir. La première chose à faire est de trouver les trois vieilles femmes aux cheveux gris qui nous diront où l'on peut découvrir les nymphes. Les trois femmes aux cheveux gris, s'écria Persée, à qui cela parut une nouvelle difficulté à surmonter. Dites-moi, je vous prie, quelles peuvent être ces trois femmes dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Ce sont de vieilles dames fort étranges, dit en riant Vif-Argent. Elles n'ont qu'un œil et qu'une dent pour elles trois. C'est en outre à la clarté des étoiles ou à la tombée de la nuit qu'il faut les aborder, car elles ne se montrent jamais en plein jour, ni même au clair de lune. Mais pourquoi perdre mon temps à la recherche de ces trois vieilles femmes? Demanda Persée. Ne vaudrait-il pas mieux se mettre tout de suite en quête des terribles gorgones? Non, pas du tout. Il y a bien d'autres choses à accomplir avant d'arriver à ces dernières. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de découvrir les trois vieilles. Et, quand nous les aurons rencontrées, tu peux être sûr que les gorgones ne seront pas loin. Mettons-nous donc en marche. Après ces paroles, notre héros se sentit tant de confiance dans la sagacité de son conseiller qu'il ne fit plus d'objection et se déclara prêt à commencer immédiatement son entreprise. Ils se décidèrent donc à partir et cheminèrent d'un si bon pas que Persée trouva assez difficile de suivre son agile compagnon. Pour parler net, il lui vint l'idée singulière que ces derniers étaient pourvus de souliers ailés qui devaient, cela va sans dire, l'aider merveilleusement. Et puis, quand Persée le regardait du coin de l'œil, il lui semblait qu'il avait aussi des ailes de chaque côté de la tête. Mais dès qu'il le regardait en face, il ne voyait plus rien qu'un chapeau d'une forme assez curieuse. Quant au bâton dont nous avons parlé, il était assurément d'une grande utilité à Vif-Argent et communiquait à sa marche une si grande vitesse que Persée, tout remarquable qu'il fût pour son agilité, commençait à perdre haleine. Tiens, lui dit enfin son compagnon, se doutant bien de la peine que Persée avait à le suivre. Prends ce bâton dont tu as bien plus besoin que moi. N'y a-t-il pas de meilleurs marcheurs que toi dans l'île de Sérifus? Je marcherai tout aussi vite qu'un autre, dit Persée en lançant un coup d'œil malin aux pieds de son conducteur, si j'avais seulement une paire de sandales qui eût des ailes. Je vais essayer de t'en procurer, répondit Vif-Argent. Cependant, le bâton était d'une telle assistance à Persée qu'il ne sentit plus la moindre fatigue. En effet, ce bâton s'était animé dans sa main et lui avait transmis une portion de la vie qu'il venait de recevoir. Dès ce moment, les deux voyageurs continuèrent leur route en causant avec la plus agréable familiarité. Vif-Argent surtout racontait un si grand nombre d'aventures extraordinaires qui lui étaient arrivées et dans lesquelles son esprit inventif l'avait toujours tiré d'embarras, que Persée commença à le regarder comme un personnage tout à fait merveilleux. Il avait évidemment une grande expérience du monde, et rien n'est plus utile à un jeune homme qu'un ami possédant à fond les connaissances nécessaires à la pratique de la vie. Aussi Persée écoutait-il avec une grande attention tout ce que disait son guide, dans l'espérance d'enrichir son esprit de tout ce qu'il entendait. À la fin, il se rappela que Vif-Argent avait parlé d'une sœur qui devait apporter son concours dans l'entreprise qu'il poursuivait. Où est-elle? Demanda-t-il. Est-ce que nous la verrons bientôt? Chaque chose a son temps, répondit son compagnon. Cette sœur dont je te parlais, il faut bien que tu saches, est d'un caractère tout différent du mien. C'est une personne grave et prudente, qui ne sourit jamais, qui rit encore moins, et s'est fait une règle de ne point ouvrir la bouche sans avoir à dire quelque chose de profond. Elle ne prête non plus l'oreille qu'aux paroles qui sont empreintes d'une véritable sagesse. Mon Dieu, s'écria Persée, je n'oserais jamais prononcer une syllabe en sa présence. C'est une personne accomplie, continua Vif-Argent. Elle connaît tous les arts et possède toutes les sciences. En un mot, elle est tellement parfaite que bien des gens l'appellent la sagesse. Mais il faut te l'avouer, sa gravité et ma pétulance ne s'accordent pas beaucoup, et je crois qu'en voyage, sa compagnie te serait moins agréable que la mienne. Elle a cependant des traits d'esprit assez lumineux. Du reste, tu devras mettre ses conseils à profit lors de ta rencontre avec les Gorgones. Pendant qu'ils causaient ainsi, le jour commençait à s'assombrir. Ils étaient parvenus à un endroit désert et sauvage, encombré de buissons et de broussailles, si calme et si solitaire qu'il semblait n'avoir jamais été exploré par personne. Tout dans ce lieu inculte prenait un air désolé. À la faible lueur d'un crépuscule qui devenait de plus en plus obscur, et Persée, regardant autour de lui d'un air décontenancé, demanda à Vif-Argent s'ils avaient encore loin à aller. Chut, ne fais pas de bruit, répondit Vif-Argent. Voici justement l'heure et l'endroit où nous pouvons rencontrer les trois femmes aux cheveux gris. Aie bien soin qu'elles ne t'aperçoivent pas avant que tu les aies vues toi-même. Car, bien qu'elle n'ait qu'un seul œil pour elles trois, il est doué d'une vue aussi perçante que trois paires d'yeux ordinaires. Et comment ferai-je pour ne pas me laisser voir lorsqu'elles vont arriver? Demanda Percé à Vif-Argent. Celui-ci lui expliqua comment s'y prenaient ces vieilles femmes avec le seul œil qu'elles avaient pour elles trois. Elles en faisaient usage, à ce qu'il paraît, chacune à leur tour, comme d'une paire de lunettes, ou pour mieux dire, comme d'un simple lorgnon. Quand l'une des trois sœurs avait gardé l'œil pendant un certain temps, elle sortait de son orbite et le cédait à celle des deux autres, dont le tour était arrivé et qui se l'appliquait immédiatement au front pour jouir un instant du spectacle de la nature. De cette manière, il est facile de comprendre qu'une seule des trois femmes possédait le sens de la vue, pendant que ses deux sœurs étaient aveugles. En outre, au moment où l'œil passait d'une main dans l'autre, aucune de ces pauvres vieilles ne percevait la lumière. J'ai entendu parler de choses bien étranges, mais aucune, suivant moi, n'est comparable à la bizarrerie que présentent ces trois vieilles femmes, n'ayant qu'un seul œil à leur service. Telle était aussi l'opinion de Persée, dont l'étonnement ne faisait que grandir. Il n'était pas loin de croire que son compagnon de voyage se moquait de lui et que de pareilles créatures n'avaient jamais existé. Tu verras bientôt si je t'ai trompé, dit Vif-Argent. Écoute plutôt. Chut, les voilà. Percé regarda de tous ses yeux dans les ténèbres et finit par entrevoir, de manière à ne plus en douter, les trois vieilles femmes à peu de distance de l'endroit où il était. Il faisait si noir qu'il eut de la peine à distinguer leurs visages. Il remarqua seulement de longues chevelures grises et, comme elles s'avançaient toujours, il s'assura que deux d'entre elles avaient au milieu du front un trou qui était vide. Mais la troisième sœur avait son orbite pourvue d'un œil grand ouvert, qui étincelait comme un gros diamant à une bague. Cet œil lui parut si pénétrant qu'il lui supposa la faculté de voir dans les ténèbres les plus profondes, tout aussi distinctement qu'en plein midi. La vue des trois sœurs était concentrée dans cet organe unique. Cependant, les trois vieilles cheminaient à leur aise, comme si elles y avaient vu toutes les trois à la fois. Celle qui possédait l'œil en ce moment conduisait les deux autres par la main, jetant sans cesse autour d'elle des regards si attentifs que Persée tremblait qu'elle ne vînt à le découvrir à travers l'épais et sombre buisson derrière lequel Vif-Argent et lui s'étaient blottis. Par ma foi, c'était vraiment terrible de se trouver à la portée d'un œil aussi perçant. Avant d'arriver au plus épais des broussailles, l'une des trois femmes prit la parole. Sœur infernale, s'écria-t-elle, n'y a-t-il pas assez longtemps que vous avez l'œil? À mon tour, s'il vous plaît. Encore un petit moment, satanite, répondit Infernale. J'ai cru entrevoir quelque chose derrière un buisson épais qui n'est pas bien loin de nous. Et quand ça serait, riposta Satanite en grognant, ne verrai-je pas dans les broussailles aussi clairement qu'une autre? Cet œil est à moi comme à vous, et je sais la manière de m'en servir aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Donnez-le-moi, vous dis-je, que je regarde tout de suite le buisson dont vous parlez. Mais la troisième sœur, dont le nom était branlante, commença à se plaindre, prétendant que c'était son tour d'avoir l'œil, et qu'Infernal et Satanique voulaient en jouir à elles seules. Pour terminer la querelle, Infernal retira l'œil de son front et le présenta aux deux autres. Allons, pas de dispute, le voilà, prenez-le, dit-elle. Pour ma part, je ne suis pas fâchée de rester un peu dans l'obscurité. Prenez-le donc vite ou je le garde et me le remets au front. Satanite et branlante avancèrent leurs mains à tâtons pour recevoir l'œil que tenait toujours leur sœur. Mais comme elles étaient aveugles, il leur devenait très difficile d'atteindre ce précieux objet, car elles ne percevaient aucun des rayons qui s'échappaient de cet œil brillant et demeuraient toutes les trois dans la nuit la plus profonde, où les retenait leur trop vive impatience de voir. Vif-Argent s'était fort amusé du spectacle de Satanite et de Branlante, s'empressant toutes les deux de chercher l'œil à tâtons, et de leur désappointement de ne pas rencontrer la main de leur sœur. Il eut grand-peine à s'empêcher d'éclater de rire. Voilà le bon moment pour toi, souffla-t-il à l'oreille de Persée. Vite, vite, élance-toi sur Infernal et arrache-lui son œil de la main avant que l'une des deux autres ait pu le mettre à son front. Et, tandis que les trois vieilles femmes aux cheveux gris continuaient à se quereller, Persée franchit d'un seul bond le fourré de broussailles et accomplit sa conquête. L'œil merveilleux, une fois dans sa main, jeta des flammes et le regarda en face d'un air d'intelligence, comme s'il eût compris sa pensée. Les vieilles femmes ne savaient rien de ce qui venait d'arriver, et chacune d'elles, supposant qu'une de ses sœurs était en jouissance de l'œil, elles recommencèrent leur dispute. À la fin, comme Persée ne voulait pas mettre ses respectables matrones dans un plus grand embarras qu'il n'était nécessaire, il crut devoir leur expliquer ce dont il s'agissait. Mes bonnes dames, leur dit-il, je vous en prie, ne vous fâchez plus. C'est moi qui ai l'honneur de tenir dans ma main votre œil d'un éclat si vif et si magnifique. Notre œil, Et qui êtes-vous? Répliquèrent les trois sœurs en faisant retentir l'air d'un seul cri déchirant. Elles furent en effet terriblement effrayées, cela se comprend, en entendant une voix étrangère et en apprenant que leur œil était entre les mains d'un inconnu. Et qu'allons-nous devenir? S'écrièrent-elles. Nous sommes plongées dans d'horribles ténèbres. Rendez-nous notre œil, notre seule, notre précieuse, notre unique lumière. Promets-leur, murmura Vif-Argent à Persée, que tu le leur rendras aussitôt qu'elles t'auront indiqué la demeure des nymphes, dépositaires des sandales volantes, de la besace magique et du casque d'invisibilité. Mes chères, mes bonnes et aimables dames, dit alors Persée en s'adressant aux trois vieilles, ne vous alarmez pas, je ne suis point du tout un méchant homme. Vous rentrerez en possession de votre œil, que je vous rendrai intact et dans tout son éclat, dès que vous m'aurez enseigné la retraite des nymphes. Les nymphes, grand Dieu, et de quelles nymphes veut-il nous parler, mes sœurs? Dit Satanite. Il y a toutes sortes de nymphes, à ce qu'on assure. Les unes se livrent à la chasse dans les bois, les autres habitent au milieu des feuillages ou bien ont un séjour tranquille aux sources des rivières. Nous ne savons rien des nymphes. Nous sommes trois malheureuses vieilles femmes qui s'en vont, errant dans l'ombre, n'ayant jamais eu qu'un œil à elles trois. Et cet œil, c'est vous qui le possédez. Rendez-le-nous, bon étranger. Qui que vous soyez, rendez-le-nous. Pendant tout ce temps-là, les trois vieilles femmes aux cheveux gris cherchaient à tâtons et allongeaient leurs bras, en faisant tous leurs efforts pour se saisir de Persée. Mais il eut le plus grand soin de rester à l'abri de leur atteinte. Mes respectables dames, répéta-t-il, car il devait à sa mère les façons les plus polies. Je tiens toujours votre cher trésor, et je le garderai jusqu'à ce que vous me disiez où je peux trouver les nymphes. Je veux parler de celles qui disposent de la besace enchantée, des sandales volantes et du... Qu'est-ce que c'est déjà? Ah, du casque de l'invisibilité. Miséricorde, mes pauvres sœurs! De quoi donc parle ce jeune homme? S'écrièrent les trois vieilles en s'interrogeant d'un air étonné. Une paire de sandales volantes, dit-il. Mais ses talons voleraient bien vite plus haut que sa tête s'il était assez fou pour se les attacher. Un casque d'invisibilité? Comment un casque pourrait-il le rendre invisible à moins d'être suffisamment grand pour le cacher tout entier? Et une besace enchantée? Je vous le demande. Quelles inventions ne va-t-on pas imaginer? Non, non, vous vous trompez, mon bon jeune homme. Nous ne pouvons rien vous dire relativement à ces choses merveilleuses. Vous avez vos deux yeux. Vous possédez le moyen de découvrir les merveilles dont vous parlez, beaucoup mieux que trois pauvres créatures comme nous, qui sommes vieilles et aveugles. En les entendant parler ainsi, le jeune homme commençait à croire que les femmes aux cheveux gris ne savaient rien de cette affaire. Et comme il lui en coûtait de les avoir mises dans une telle inquiétude, il était sur le point de leur restituer leur œil et de leur offrir ses excuses pour la grossièreté qu'il avait commise à leur égard. Mais Vif-Argent lui arrêta la main. Ne sois pas leur dupe, lui dit-il. Ces trois femmes sont les seules créatures qui puissent t'indiquer le séjour des nymphes. Et à moins d'obtenir ce renseignement, tu ne réussiras jamais à trancher la tête de Méduse. Tiens bien l'œil et tout ira selon tes souhaits. Vif-Argent avait raison. Il y a peu de choses qu'on estime autant que ses yeux. Et l'œil uni des vieilles femmes aux cheveux gris avait pour elle autant de valeur qu'une demi-douzaine d'yeux, nombre qui aurait dû leur échoir naturellement. Comprenant qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'en recouvrer la propriété, elles finirent par dévoiler à Persée le secret qu'il désirait connaître. Elles n'eurent pas plutôt satisfait à sa demande qu'il replaça lui-même, avec le plus grand respect, l'œil à la place qu'il devait occuper au front de l'une d'elles, les remercia de leur complaisance et leur dit adieu. À peine étaient-elles assez loin pour ne pas être entendues qu'elles recommencèrent la discussion, parce qu'Infernal avait déjà joué de son tour au moment de leur rencontre avec Persée. Il est à craindre que les trois femmes aux cheveux gris ne fussent habituées à voir leur bonne harmonie souvent troublée par des disputes de cette nature. C'était d'autant plus triste qu'elles ne pouvaient guère se passer les unes des autres, et qu'évidemment, elles étaient destinées à vivre inséparables. Ainsi, tous ceux qui, vieux ou jeunes, amis ou frères, n'ont par hasard qu'un œil à leur service, feront bien de se montrer patients les uns pour les autres et de ne pas exiger tous à la fois de l'avoir à leur disposition. Tandis que les trois vieilles continuaient à se quereller, Vif-Argent et Persée cheminaient aussi vite que possible afin de se rendre auprès des fameuses nymphes. Les vieilles dames leur avaient donné des renseignements si exacts et si détaillés qu'ils ne furent pas longtemps sans découvrir la demeure de celle qu'ils cherchaient. Les nymphes étaient bien loin de ressembler à Satanite, à Infernale et à Branlante. Au lieu d'être vieilles, elles étaient jeunes et belles et avaient chacune deux yeux excessivement brillants, dont elles dirigèrent du côté de Persée les regards pleins de douceur et de bonté. Elle semblait connaître Vif-Argent, car aussitôt qu'il leur eut conté l'entreprise de Persée, elles ne firent aucune difficulté de lui remettre les objets merveilleux qui leur étaient confiés. D'abord, elles apportèrent un petit sac de peau de daim, orné de broderies étranges, lui recommandèrent d'en avoir le plus grand soin et d'avoir confiance au pouvoir de ce talisman. C'était la besace magique. Ensuite, les nymphes exhibèrent une paire de sandales garnies au talon d'une couple de jolies petites ailes. Mets-les à tes pieds, dit Vif-Argent. Tu vas te sentir aussi léger que tu peux le désirer pour le reste du voyage. Persée posa l'une des sandales à côté de lui pour s'attacher l'autre bien vite. Mais pendant qu'il mettait la première, la seconde sandale ouvrit ses ailes, se mit à voltiger et aurait probablement disparu si Vif-Argent, d'un bond, ne l'eût heureusement rattrapée. Il faut faire plus attention, dit-il en la remettant à Persée. Les oiseaux s'épouvanteraient dans les airs s'ils voyaient une sandale volante. Lorsque notre héros eut revêtu ses merveilleuses chaussures, il se crut un instant trop léger pour marcher sur la terre. Au premier pas qu'il essaya de faire, il s'élança malgré lui et s'éleva au-dessus de la tête de Vif-Argent et des nymphes. Il eut beaucoup de peine à redescendre, car des ailes ne deviennent faciles à manœuvrer qu'après une certaine pratique. Vif-Argent se prit à rire de la vivacité involontaire de son compagnon et lui dit de ne pas céder à tant d'emportement qu'il avait encore à recevoir le casque d'invisibilité. Les aimables nymphes se disposaient à le coiffer de ce précieux casque, orné d'un panache de plumes noires ondoyantes, lorsque cet incident donna lieu à une scène plus extraordinaire que toutes celles que je vous ai déjà racontées. Notre héros était là, plein de fierté. C'était un beau jeune homme aux cheveux blonds, aux joues roses, ayant un glaive recourbé au côté et portant un bouclier d'un poli éclatant. Mais le casque, une fois posé sur son front, tout avait disparu. L'air transparent et vide occupait seul la place où il était l'instant d'auparavant. Tout s'était évanoui. jusqu'à la coiffure qui le rendait invisible. Eh bien, Persée, où es-tu donc? Lui demanda vif Argent. Mais ici, répondit tranquillement notre héros, dont la voix semblait s'échapper d'une atmosphère éthérée. Je suis où j'étais tout à l'heure. Est-ce que vous ne me voyez pas? Non, en vérité, repartit son ami. Le casque te dérobe à nos yeux, et si je ne peux pas te voir, les gorgones ne te verront pas davantage. À présent, suis-moi. Nous allons t'apprendre à te servir des sandales. À ces mots, le chapeau de vif argent ouvrit ses ailes, et l'on aurait cru que sa tête allait se séparer de ses épaules. Mais toute sa personne s'enleva légèrement, et le jeune homme le suivit dans les airs. Parvenu à la hauteur d'une centaine de pieds, notre héros sentit combien il est délicieux de quitter la terre et de voler comme un oiseau. Il faisait alors une nuit complète. Persée leva les yeux et, voyant le disque argenté de la lune, il pensa que rien ne lui serait plus agréable que de prendre son essor et d'aller finir ses jours dans l'astre qui brillait au-dessus de lui. Mais, abaissant de nouveau ses regards, il contempla la terre, avec ses mers, ses lacs, ses fleuves aux cours sinueux, ses montagnes couronnées de neige, ses plaines immenses, ses forêts épaisses, ses villes de marbre blanc. Et l'île de Sérifus où vivait Danaé. Une douce lumière répandait sa clarté sur tous ces objets. Et la terre lui apparut aussi belle que pouvait l'être n'importe quelle étoile. Parfois, il s'approchait avec son guide d'un nuage qui, à distance, produisait l'effet d'une toison d'argent. Et quand il plongeait au travers, il se sentait tout transi et tout mouillé par la froide vapeur dont ils étaient enveloppés. Mais leur vol était si rapide qu'en un moment, ils avaient franchi ce nuage et se retrouvaient sous le ciel par un magnifique clair de lune. Toutefois, rien n'égalait en splendeur les météores qui éclataient tout à coup dans l'espace, semblables à un immense feu de joie dont la vive lumière faisait pâlir l'astre des nuits dans un rayon de plus de 100 lieues autour d'eux. Tandis qu'ils poursuivaient leur course, Persée crut entendre quelqu'un voler auprès de lui, bien qu'il ne vît à ses côtés personne que vif argent. Qui donc est près de moi? Dit-il. Le frôlement d'une étoffe légère qui flotte dans la brise a frappé mon oreille. C'est ma sœur, répondit vif argent. Elle nous accompagne en ce moment comme je t'en ai prévenu, car il nous est impossible de rien accomplir sans elle. Tu ne peux te faire une idée de sa sagesse. Et quel coup d'œil! Elle te distingue aussi nettement que si tu n'étais pas invisible. Et je t'affirme qu'elle sera la première à découvrir les gorgones. Ils planaient alors au-dessus du grand océan et voyaient au-dessus d'eux les flots s'agiter avec fureur et déferler sur la plage en y roulant une blanche écume ou venir se briser en bouillonnant contre les rochers des falaises avec un bruit qui, pour ceux qui se trouvaient sur le rivage, semblait le bruit du tonnerre. Mais pour Persée, ce n'était qu'un murmure, doux comme le souffle d'un enfant à moitié endormi. Alors une voix se fit entendre auprès de lui dans les airs, voix mélodieuse qui semblait appartenir à une femme, bien qu'elle eût encore plus de gravité que de douceur. Voilà les gorgones, Persée, dit cette voix. Où donc? S'écria-t-il. Je ne les aperçois pas. Sur le rivage de l'île au-dessus de laquelle tu passes, si un caillou s'échappait de ta main, il tomberait au milieu d'elle. Je te l'avais bien dit qu'elle serait la première à nous avertir, s'écria vif argent. Au-dessous de lui, en effet, à une profondeur de 2 ou 3 000 pieds, Persée distingua une petite île que la mer entourait d'un cercle d'écume, excepté d'un côté, où la plage était couverte de sable d'une blancheur de neige. Il descendit et, dirigeant ses regards vers une enceinte resplendissante de lumière, au fond d'un précipice, il aperçut enfin les terribles gorgones. Elles dormaient d'un profond sommeil, bercé par le grondement des flots. Car il fallait, pour endormir ces féroces créatures, des mugissements dont toute autre personne eût été assourdie. Les rayons de la lune frappaient leurs écailles métalliques et faisaient briller leurs ailes d'or, nonchalamment étalées sur la grève. Leurs griffes de bronze, horribles à contempler, se cramponnaient aux fragments de rochers battus par les vagues, tandis qu'en rêve, elles déchiraient sans doute quelque pauvre mortel. Les serpents qui formaient leurs chevelures paraissaient dormir, comme les monstres dont ils couvraient la tête. Néanmoins, de temps à autre, l'un d'eux entr'ouvrait ses mâchoires, dardait sa langue fourchue en faisant entendre un sifflement à demi assoupi et retombait dans sa torpeur au milieu du groupe monstrueux. Vues ainsi, les gorgones ressemblaient à d'effroyables insectes, à des scarabées gigantesques aux élytres cuivrées, à des dragons dont la hideur se mêlait à une certaine beauté. Seulement, elles étaient 1 million de fois plus grosses qu'un insecte et avaient dans leur ensemble quelque chose qui tenait de la forme humaine. Heureusement pour Persée, leurs traits étaient complètement cachés par la position qu'elles occupaient, car s'il avait seulement aperçu leur visage, il serait tombé du haut des cieux et n'aurait plus été qu'un bloc de pierre insensible. Maintenant, lui dit tout bas Vif-Argent, voici l'heure de faire ce que tu dois accomplir. Dépêche-toi, car il serait trop tard si l'une d'elles s'éveillait. Laquelle faut-il frapper? Demanda Persée en tirant son glaive. Toutes les trois ont la tête garnie de serpents, mais laquelle est Méduse? Cette dernière était la seule dont notre héros dut essayer de trancher la tête, car il eut vainement frappé les deux autres du tranchant le plus acéré. Ses armes se seraient usées sans leur faire aucun mal. De la prudence, reprit la voix qui lui avait déjà parlé. L'une des gorgones s'agite et va se retourner tout à l'heure. C'est Méduse. Ne la regarde pas, tu serais pétrifié à l'instant même. Fixe ton regard sur ton bouclier, où son corps et son visage se reflètent comme dans un miroir. Persée comprit alors pourquoi Vif-Argent lui avait si vivement recommandé de le polir. Il pouvait y regarder en toute sécurité l'image de la gorgone qu'il avait à combattre. Elle était là, cette terrible apparition, éclairée par la lune et déployant sa monstrueuse horreur. Les serpents, que leur nature venimeuse empêchait de dormir tous ensemble, se dressaient, entrelacés sur son front. C'était la face la plus repoussante et la plus hideuse qu'on eût jamais imaginée. Et pourtant, il y avait dans son aspect une sorte de beauté sauvage, effrayante à contempler. La gorgone avait les yeux fermés. Elle était toujours profondément endormie. Mais une vive inquiétude se peignait sur ses traits, comme si un mauvais rêve eût troublé son sommeil. Ses dents formidables étaient serrées violemment, et ses griffes d'airain labouraient le sable d'un mouvement convulsif. Les serpents, qui, de leur côté, semblaient éprouver l'influence de ce mauvais rêve, dressaient leurs têtes sifflantes et se débattaient les yeux fermés, en se contournant en replis tortueux. Vite, vite, murmura Vif-Argent de plus en plus impatient. Fonds à l'instant sur le monstre. Mais sois calme, dit la voix grave et mélodieuse à l'oreille du jeune homme. Regarde dans ton bouclier, en prenant ton élan, et songe à ne pas manquer ton premier coup. Persée descendit avec précaution, sans quitter des yeux l'image que représentait son bouclier. Plus il approchait de sa victime, plus cette face hérissée de serpents lui paraissait horrible. Enfin, quand elle se trouva à la portée de son bras, Persée lève son arme. Au même instant, chaque reptile se dresse sur le front de la gorgone, en se roidissant de colère. Celle-ci entr'ouvre les yeux. Il est trop tard. Le glaive retombe avec la rapidité de l'éclair. Et la tête de l'horrible méduse est séparée de son corps. Bravo, bravo! Cria vif argent. Dépêche-toi de renfermer la tête dans ta besace magique. À la grande surprise du vainqueur, la petite poche brodée qu'il avait portée suspendue à son cou et qui n'avait pas été jusque-là plus grande qu'une bourse, s'élargit au point de pouvoir contenir son trophée. Aussi prompt que la pensée, il saisit la tête et l'enlève, tandis que les serpents continuent à se tordre convulsivement et tout disparaît dans le sac. Tu as accompli ta mission, dit la voix grave. Maintenant prends ton essor et fuis, car les autres gorgones vont mettre en œuvre toute leur puissance pour venger la mort de leur sœur. Il était temps, en effet. Car malgré le calme avec lequel Persée avait exécuté son action, le choc de son glaive, le sifflement des serpents et le bruit qu'avait fait la tête de Méduse en tombant sur le sable réveillèrent les deux autres gorgones. Elles se mirent sur leurs séants et, tout engourdies encore, elles se frottèrent les yeux avec leurs doigts d'airain. Les serpents de leur chevelure se dressaient sur leur tête et entraient en fureur, avant même de savoir contre quoi diriger leur colère venimeuse. Mais bientôt les gorgones aperçurent le cadavre décapité de leur sœur, ses ailes d'or froissées et à demi étendues sur la plage, et leurs cris épouvantables retentirent jusqu'aux nues. Cent sifflements affreux s'échappèrent à la fois comme d'un seul gosier, et les serpents de Méduse y répondirent du fond de la besace où ils étaient enfermés. Aussitôt qu'elles furent tout à fait éveillées, les gorgones s'élancèrent dans l'espace, brandissant leurs serres de bronze, grinçant des dents et fouettant l'air de leurs ailes d'une façon si furieuse que quelques-unes de leurs plumes d'or se détachèrent et vinrent s'éparpiller sur le rivage, où peut-être, en cherchant bien, on les retrouverait encore. Elles s'étaient donc élancées à la poursuite du meurtrier, tournant de tous côtés leurs yeux remplis d'éclairs, dans l'espérance de pétrifier leur ennemi. Et si notre héros les eût regardés en face, ou fût tombé sous leurs griffes acérées, sa pauvre mère n'aurait jamais pu revoir et embrasser son fils. Mais il se garda bien de tourner la tête. Et comme il portait le casque d'invisibilité, les monstres ne surent pas dans quelle direction le poursuivre. Il fit aussi le meilleur usage des sandales, en s'élevant perpendiculairement à peu près à 1 mille. Et, parvenu à cette hauteur, où les cris de ces abominables créatures s'éteignaient au-dessous de lui, il se dirigea en droite ligne vers l'île de Sérifus. Je n'ai pas le temps de vous raconter les aventures merveilleuses qui arrivèrent à notre héros pendant cette dernière partie de son voyage. Je vous dirai seulement qu'il tua un horrible monstre marin au moment où celui-ci allait dévorer une belle jeune fille, et qu'il changea un énorme géant en une montagne de pierre, simplement en lui présentant la tête de la gorgone. Si vous en doutez, vous n'avez un jour ou l'autre qu'à faire un voyage en Afrique. Vous y verrez la montagne dont je vous parle, et qui porte encore l'ancien nom du géant. Persée arriva enfin à Sérifus, où il espérait trouver sa mère. Mais pendant son absence, le roi avait traité si durement Danaé qu'elle avait pris la fuite et s'était réfugiée dans un temple où elle avait été recueillie par de vieux prêtres qui l'entouraient de soins affectueux. Ces dignes vieillards et l'excellent pêcheur qui avait d'abord donné l'hospitalité à cette princesse et à son fils paraissent avoir été les seules personnes de l'île qui songeassent à faire le bien. Les autres habitants, à l'exemple du roi Polydecte, menaient la vie la plus déréglée et ne méritaient pas d'autre destinée que celle qui les attendait. Ne trouvant pas sa mère chez elle, Persée courut au palais et fut introduit immédiatement en présence de Polydecte, qui le reçut avec froideur, car il avait bien compté dans son âme perverse que les gorgones le débarrasseraient de notre héros. Cependant, à la vue de Persée revenu sain et sauf, il dissimula son désappointement et lui demanda comment il avait rempli sa mission. As-tu fidèlement tenu ta promesse? Lui dit-il. M'as-tu rapporté la tête de Méduse aux cheveux de serpent? Sinon, mon ami, tu pourras t'en repentir. Car il me faut un présent de noces pour la belle Hippodamie, et c'est la seule chose qui puisse flatter cette princesse. Oui, Majesté, répondit Persée d'un ton calme et modeste, comme si l'action qu'il venait d'accomplir avait été la plus simple du monde. Je vous ai rapporté la tête de la gorgone, avec sa chevelure de serpent. Vraiment, Persée, montre-la-moi, je t'en prie, dit le roi Polydecte. Ce doit être un spectacle excessivement curieux, si tout ce que les voyageurs ont dit est réel. Votre Majesté a raison, reprit le héros. C'est en effet un objet qui devra fixer les regards de tous ceux qui le verront. Et si votre Majesté veut bien le permettre, je lui proposerai d'ordonner un jour de fête publique et d'appeler tous ses sujets à venir contempler cette merveille. Un petit nombre d'entre eux, j'imagine, ont vu dans leur vie une tête de gorgone. Et peut-être après cela, ne pourront-ils plus en voir d'autres. Le roi savait bien que son peuple se composait de misérables fainéants, très amateurs de spectacles, comme le sont ordinairement les paresseux. Il suivit donc les conseils du jeune homme et envoya de tous côtés des héros d'armes et des messagers pour publier sa proclamation à son de trompe au coin des rues, sur les places et aux jonctions des routes, invitant la population tout entière à se rendre à la cour. En conséquence, une multitude de vagabonds et de vauriens s'empressèrent d'accourir, espérant bien apprendre que Persée avait éprouvé quelque fâcheux accident. Tous y vinrent. S'il y avait dans l'île quelques braves gens laborieux et sensibles, ainsi que je veux le croire malgré le silence de l'histoire à cet égard, ils restèrent paisiblement au logis, vaquant à leurs propres affaires et prenant soin de leurs petits-enfants. Mais la plupart des habitants se hâtèrent d'accourir au palais, se heurtant et se poussant du coude pour approcher du balcon où se tenait Persée, un sac à la main. Le monarque, entouré de ses méchants conseillers, de ses flatteurs et de ses courtisans, était sur une plateforme vis-à-vis de notre héros, et tous avaient les yeux tournés avec avidité vers l'endroit où se montrait le vainqueur de la gorgone. La tête, criait le peuple avec violence. La tête de Méduse, la tête aux cheveux de serpent. Et il semblait disposé à mettre en pièces le jeune héros s'il tardait plus longtemps à obéir. Persée se sentit pénétré de douleur et de pitié. Sire, dit-il, et vous, nombreux habitants de Sérifus, dispensez-moi de vous présenter la tête de la gorgone. Le scélérat, le lâche, vociféra la populace devenue féroce. Il s'est moqué de nous. Il n'a pas la tête de la gorgone. Qu'il nous la montre, ou nous prendrons la sienne pour en faire un ballon. Les conseillers murmuraient à l'oreille du roi ce que leur malice leur inspirait. Les courtisans répétaient d'une voix unanime que le traître s'était rendu coupable d'offense envers la personne du souverain. Et Polydecte, qui triomphait en lui-même, ordonna à Persée de satisfaire immédiatement les désirs populaires. Montre-moi la tête de la gorgone ou je te fais décapiter sur l'heure, dit l'impérieux monarque. Persée poussa un profond soupir. Obéis ou tu es mort, répéta Polydecte. Regarde-la donc, s'écria Persée d'une voix tonnante. Et levant la terrible tête, il la présenta à la multitude. Le méchant roi, ses cruels conseillers, ses farouches sujets, n'eurent pas même le temps de fermer leurs paupières et n'offrirent plus qu'une image pétrifiée de ce qu'ils étaient jadis, conservant à jamais l'expression de leur méchanceté sur leur figure inerte. Au premier regard qu'ils avaient jeté sur la tête de Méduse, ils avaient été changés en statues de marbre. Persée, Ayant remis dans la besace magique l'instrument horrible de sa vengeance, s'empressa d'aller dire à sa mère qu'elle n'avait plus rien à redouter du méchant roi Polydecte. N'est-ce pas là une belle histoire? Demanda Eustache. Oh oui, s'écria Primevère en frappant dans ses mains. Et ces drôles de vieilles bonnes femmes avec leur seul œil pour elles trois, je n'ai jamais rien entendu d'aussi extraordinaire. Quant à la seule dent dont elle se servait alternativement, ajouta Primrose, je n'y vois rien d'étonnant. Je suppose que c'était une fausse dent. Mais quelle idée de changer le nom de Mercure en celui de Vif-Argent et de parler de sa sœur. Vous êtes trop ridicule. Et n'était-ce pas sa sœur? Demanda Eustache Braque. Si j'y avais pensé plus tôt, je vous aurais tracé le portrait de cette belle jeune fille à l'aspect virginal, avec son hibou favori. En tout cas, dit Primrose, votre histoire a fait passer le brouillard. En effet, pendant ce récit, les vapeurs qui voilaient le paysage s'étaient complètement dissipées, et le tableau qui se déroulait aux yeux de nos petits camarades leur parut avoir été créé depuis que leur regard s'était tourné de ce côté-là. Au sein de la vallée, à peu près à 1 mille de distance, apparaissait maintenant un beau lac, réfléchissant comme un miroir ses bords ombragés d'arbres et les sommets des collines éloignées. Monument Mountain s'élevait à l'horizon et, regagnant la vallée par une pente insensible, semblait venir rejoindre les bords du lac pour s'y coucher mollement. Eustache Bright comparait cette montagne à un sphinx gigantesque, enveloppé dans un cachemire des Indes, comparaison qui restait bien au-dessous de la vérité, grâce à la richesse et à la variété de couleurs dont l'automne avait paré la forêt qui couvrait la montagne. Entre le lac et Tanglewood, la lisière des bois et les vieux arbres épars dans la vallée paraissaient à leur manteau bruni, çà et là nuancé d'or, avoir plus souffert de la gelée que l'épais feuillage qui garnissait les collines. Une vive lumière éclairait le paysage, et les rayons du soleil, adoucis par une brume transparente, répandaient sur toute la vallée un charme inexprimable. Quelle journée délicieuse on aurait jusqu'au soir! Les enfants saisirent leur panier et se mirent en marche, sautant et bondissant au milieu des rires et des cris de joie de toute la bande. Eustache excellait à présider ce groupe folâtre. Non seulement il surpassait tous ses petits camarades dans ses jeux d'adresse, mais encore il improvisait mille bouffonneries que les enfants s'efforçaient d'imiter tout en désespérant d'y arriver. Un bon vieux chien, nommé Ben, suivait la troupe joyeuse. Ce quadrupède, l'un des plus respectables et des plus généreux de la création, trouvait probablement qu'il était de son devoir de ne pas laisser les enfants s'éloigner ainsi à l'aventure, sans un gardien plus sérieux et plus grave que cet écervelé de Sage Bright.